Chapitre 27. Le Falcon 900 se pose sur l'impeccable tarmac bitumé du royaume autonome d'Herminie. « Monsieur l'aviateur !» supplie Andy juste avant que je coupe les gaz. « Accordez-moi un rapide cours de géo !» Je laisse ralentir le jet privé sur la longue piste d'atterrissage. C'est presque incroyable qu'une île aussi minuscule possède un aérodrome aussi bien entretenu. Eh bien, les Orcades sont avec les Hébrides et les Shetland le troisième archipel écossais, un ensemble de près de 70 îles, dont moins d'une sur quatre est habitée. Les Orcadiens sont au nombre de...
Merci,
coupe Andy.
Oh, regardez!
Elle lève les yeux et tend le doigt. Au-dessus du petit aéroport de pierre grise flotte un drapeau. Un étrange drapeau. Sur fond bleu azur, est imprimé un baobab. Nous marchons sur la piste jusqu'à parvenir au bâtiment qui doit servir de terminal. Un douanier moustachu nous attend à l'intérieur, derrière un comptoir de bois. Petit, trapu, il est vêtu d'un uniforme vert à galons étoilés. Il se contente de saisir les visas que Moïsès nous a confiés au Salvador. Le douanier les examine d'un air méfiant, puis tamponne les documents. Le cachet représente une rose. Enfin, le douanier prononce quelques mots. 6 exactement. « Voulez-vous changer de l'argent ?» Je manque de m'étouffer de surprise.
« Quoi ?»«
Ici, en Herminie, on paye en renard. » Il consulte son ordinateur. « Un renard vaut 1,27 $. »«
Ah ?»
Devant notre hésitation, le douanier s'empresse de préciser. « Vous pourrez aussi changer votre cash dans la capitale. D'ailleurs, votre chauffeur ne devrait pas tarder à arriver. »
De plus en plus surpris, je sors avec Andy et j'attends devant la route goudronnée qui disparaît un peu plus loin dans les ondulations de l'île.
Nous patientons quelques minutes.
« Les collines !»
me souffle Andy.
« Ce sont évidemment les volcans ?»
Elle n'a pas le temps de m'en dire davantage. Une longue Rolls-Royce noire apparaît de derrière la butte la plus proche. Alors qu'elle se dirige vers nous, je repère les petits drapeaux bleus et leurs baobabs sur chaque extrémité du capot. Un chauffeur au maintien impeccable, malgré sa carrure imposante et sa petite taille, sort de la Rolls. Son gant blanc nous ouvre la portière. Sa casquette, ornée d'une rose, nous salue. Derrière ses lunettes de soleil, sans doute nous regarde-t-il. Andy a l'air de follement s'amuser. Elle s'installe à côté de moi sur les fauteuils de cuir rouge. La Rolls roule doucement sur les routes vallonnées, sans doute de peur d'écraser un des moutons qui broutent par centaines et en totale liberté dans les landes de l'île.
« Arrivons-nous bientôt ?»
demande Andy en prenant une voix d'aristocrate. « Nous serons dans une minute à la capitale, » répond le chauffeur. Je calcule que nous avons dû parcourir 6 kilomètres depuis l'aéroport. D'ailleurs, les bornes de granit sont installées le long de la route. 325, 326. Andy se racle la gorge.
Parlez-nous un peu de ce royaume, mon brave.
Avec plaisir, miss. L'Herminie est un royaume indépendant depuis près de 50 ans maintenant. Le royaume frappe sa propre monnaie, perçoit taxes et impôts, dispose d'une constitution souveraine, d'une police et d'une petite armée, et jouit d'une économie florissante.
Les moutons. Dis-je, pour avoir l'air de m'intéresser.
« Non, » répond le brave, les lèvres pincées. « Nous ne mangeons, ni ne vendons, ni même ne tondons les moutons en Herminie. Les moutons sont sacrés. La vraie richesse d'Herminie se cache sous la mer, le pétrole. »
Borne 327, 328, 329. Les moutons se raréfient. Les bosquets de roses s'intensifient. Le brave chauffeur continue.
Nous disposons aussi d'ambassadeurs qui travaillent pour que l'Herminie soit reconnue par l'ONU et l'Union européenne en tant qu'État ami, même si nous n'admettons aucune compromission politique. Nous sommes un État non aligné qui n'œuvre que pour la paix.
Un dernier tournant.
Borne 330. Le palais apparaît brusquement. Un pur manoir écossais, pierre grise et tour pointue, mâchicoulis en dents de géant et fenêtres jaunes et rondes comme des yeux de dragon. Sur le fronton du château, je déchiffre la devise. L'autorité repose d'abord sur la raison. Le brave chauffeur est parti garer la Rolls derrière le château. Nous en franchissons les douves par un pont-levis et attendons quelques instants devant la porte de chêne. Je n'ose penser qu'il s'agisse de planches de baobab. Eux aussi doivent être trop sacrés pour finir en tranche. La porte s'ouvre. Un majordome barbu aux cheveux gris se tient derrière. Il porte une élégante écharpe jaune et un large turban qui descend jusqu'à ses yeux. Petit, mais musclé, il referme la lourde porte derrière nous et nous invite à monter l'escalier jusqu'au grand salon. Nous en restons bouche bée. Dans la vaste pièce soutenue par des poutres baobabesques, chauffée par une haute cheminée, est exposée la plus stupéfiante collection petite princière qui puisse exister. Je ne suis certes pas un spécialiste, mais Andy, qui l'est, se montre tout autant impressionné. Dans les vitrines de verre, comme s'il s'agissait de reliques précieuses, je reconnais l'épée du petit prince, les étoiles qu'il porte à l'épaulette, la chaise sur laquelle il regarde les couchers de soleil, l'arrosoir et le paravent pour sa rose, le bocal, la poêle posée sur le petit volcan. Rien ne manque. Dans les vitrines d'en face, éclairées de vitraux en forme de roses incrustées dans les pierres grises du mur, trône le télescope de l'astronome, le grand atlas et la loupe du géographe, le fusil du chasseur, la cravate du businessman. Andy ne sait plus où donner de la tête, fasciné. Mais le plus beau reste à venir. Sur le plus grand mur sont exposés des exemplaires du Petit Prince. Dans toutes les langues de la Terre. Les différents alphabets dansent devant nos yeux. Des petits princes de toutes les couleurs, des avions, des planètes, des étoiles. Comme si les enfants de chaque pays, de chaque tribu du monde, se donnaient la main. Subjugué, je commence à les compter.
318 traductions, précise le majordome dans mon dos. La plus grande collection au monde du livre le plus traduit au monde, le plus universel des contes jamais publiés. Pour certaines langues orales d'ethnies reculées, il est même le seul récit écrit. Observez ces éditions pour les autistes, en braille, ou même en orbèche, la langue de Star Wars, et celle-ci, en hébreu, pour les élèves palestiniens. Peut-il exister un symbole de paix plus puissant ?
Il nous laisse admirer la collection encore quelques instants, puis tous avec distinction.
« Voulez-vous passer dans la salle du trône ?»
Il ouvre une nouvelle porte. Nous entrons dans une pièce entièrement lambrissée. Quelques tableaux et cartes sont accrochés. Des paysages de désert et de volcans. Andy baisse les yeux sur les fleurs violettes du trône, très simples et à la fois majestueux, puis sur la couronne royale posée sur le coussin. Mon regard, à l'inverse, se bloque sur une des cartes au mur. Je n'en crois pas mes yeux. La carte est dessinée sur une peau. Je crois reconnaître la fameuse carte de Piri Reis. Avant que j'aie le temps de prévenir Andy, le majordome tousse à nouveau.
« Sa Majesté Isar Ier va vous recevoir. »